Eh bien, nous allons débuter ces matins de Noël avec vous, Bénédicte Robin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'accord est historique et tout en symbole à la veille de Noël. Enfin, Londres et Bruxelles se sont mis d'accord pour divorcer. 4 ans après le vote des Britanniques pour quitter l'Union, Boris Johnson se réjouit et c'est 2000 pages qu'il faut encore ratifier de chaque côté. Les pêcheurs, eux, en France, ne sont pas toujours bien rassurés. Nous consacrerons une grande partie de ce journal à cet accord tant attendu.
Et puis, outre-Manche encore, des centaines et des centaines de camionneurs ont passé le réveillon dans leur camion, toujours dans l'attente de pouvoir être testés pour quitter le Royaume-Uni.
Un Noël bien particulier, en comité restreint entre masques et gel hydroalcoolique, mais avec un peu de liberté tout de même, les résidents des EHPAD ont le droit de quitter leur résidence pour retrouver leurs proches. Nous irons en reportage près de Saint-Étienne. Et puis la France s'engage pour la Centrafrique. Le petit pays déstabilisé par des groupes rebelles s'apprête à voter dimanche pour son président, avec le soutien donc de l'ancienne puissance coloniale. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Bénédicte, que nous apprend la sexualité des animaux? Nous serons en ligne avec Emmanuelle Pouy-Débat. Elle est chercheuse en biologie de l'évolution au CNRS.
Il restera sans doute comme l'accord de Noël quelques heures avant le réveillon et à quelques jours de la date butoir du divorce officiel et définitif au 1er janvier. Londres et Bruxelles ont finalement réussi à le trouver, cet accord de Brexit. Nous pouvons enfin laisser le Brexit derrière nous et nous tourner vers l'avenir, s'est réjouie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, même si la réalité c'est que le texte fait 2000 pages, qu'il faut encore que les 27 Européens le valident, de même que le Parlement britannique, mais cela ne devrait pas poser problème, Richard Place.
Les députés vont maintenant avoir l'occasion de se plonger dans ces centaines de pages parfois arides, entrer dans les détails. Et ce n'est pas ce que préfère Boris Johnson généralement. Une négociation réussie, ce sont forcément des concessions. Et pour l'instant, des deux côtés, on n'en a pas reconnu beaucoup. Le Premier ministre britannique n'aura pas à faire une promotion folle de cet accord. Il sait déjà que le vote du 30 décembre lui est acquis. Le Parlement doit se réunir ce jour-là lors d'une session extraordinaire afin de valider cet accord. La seule majorité conservatrice devrait suffire, même s'il y aura sans doute quelques ronchons, et quand bien même il devrait faire face à une improbable fronde au sein de ses propres troupes, il pourra compter sur l'opposition. Les travaillistes ont déjà fait savoir qu'ils ne feraient pas la fine bouche par la voix de leur leader, Keir Starmer. Quand cet accord arrivera devant le Parlement, le Parti travailliste l'acceptera et votera pour. Mais permettez-moi d'être absolument clair. Je m'adresse directement au gouvernement. Plutôt qu'un no deal, nous acceptons cet accord. Mais les conséquences de tout ça, ce sont les vôtres. Boris Johnson tient son succès de fin d'année, son cadeau de Noël, son Merry Brexmas, comme on dit ici.
Richard Place à Londres, Merry Brexmas, contraction donc de Brexit et de Christmas, Noël en anglais. Et ce Merry Brexmas, donc au-delà du contentement et du satisfecit général de part et d'autre, eh bien que contient-il exactement? En quoi consiste-t-il? C'est avant tout un accord économique et commercial, Angélique Bourin.
C'est d'abord un accord de libre-échange tout à fait inédit. Les entreprises britanniques vont garder un accès privilégié au marché unique européen, cet immense espace de 450 millions de consommateurs, sans payer de frais de douane et sans être limitées par des quotas. Mais elles ne bénéficieront de ce ticket gratuit d'entrée que sous condition. Un mécanisme de correction est prévu si elles subventionnent par exemple certains secteurs ou si leurs industries s'éloignent des normes imposées aux Européens en matière de pollution, de fiscalité ou de droit du travail. C'est aussi un accord de sécurité. Londres et les 27 vont poursuivre leur coopération policière. Fini en revanche les échanges d'étudiants. Les Britanniques ont refusé de rester dans le programme Erasmus, mais maintiennent en revanche une collaboration plus ou moins étroite dans les secteurs de l'énergie, de l'espace ou de la recherche. En matière de pêche, le compromis prévoit une période d'adaptation, mais l'accès total aux zones britanniques très poissonneuses pour les pêcheurs européens, c'est fini. Il y aura à l'avenir des restrictions.
Et en effet, Angélique Bouin, la pêche, lourd sujet, gros enjeu des négociations, suscite encore donc inquiétude et interrogation côté européen pour les premiers concernés, puisque l'accord prévoit une baisse d'un quart des quotas de pêche pour les Français dans les eaux britanniques d'ici 5 ans. Ensuite, il faudra renégocier. Autant dire que les pêcheurs français sont un peu dubitatifs. Bruno Margollet, par exemple, est le président de la coopérative maritime étaploise dans le Pas-de-Calais, qui réunit 50 bateaux et fait vivre près de 300 familles.
À froid tout de suite, c'est un ouf de soulagement. Maintenant, le contenu, j'ai entendu Michel Barnier dire que c'était un accord équilibré. Maintenant, concernant la pêche, je suis un peu plus dubitatif. Faut vraiment voir ce que contient les 2000 pages. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Dans 5 ans et demi, les pêcheurs européens vont avoir 25% de moins à pêcher. Donc ces 25%-là, il va falloir les pêcher dans la zone européenne. Dans ce qui nous concerne, nous, il va falloir les puiser du côté français. Je dis tout simplement qu'il va falloir diminuer notre flottille de 25%. Bon, bah, ça fait une période de 5 ans et demi, d'accord. Mais bon, celui qui vient d'investir dans une entreprise, un bateau, c'est entre 3 et 4 millions d'euros, ça dépend de la taille. Il est clair qu'on ne le paye pas en 5 ans. Quand on dit qu'il faut faire des efforts, on a déjà fait beaucoup.
Bruno Margolet, président de la coopérative maritime étaploise, joint par Florent Vautier. Le gouvernement français, de son côté, a déjà promis un plan d'accompagnement pour les pêcheurs et d'ores et déjà une aide forfaitaire jusqu'à 30 000 euros.
7h06 sur France Culture, sur le sol britannique cette fois, c'est l'image triste et rude de ce 25 décembre, encore des centaines de poids lourds toujours bloqués autour de Douvres, des chauffeurs qui ont passé leur réveillon dans leur camion.
Et oui, ils doivent être testés et être négatifs au Covid pour traverser la Manche. L'attente est bien longue, même si le trafic reprend progressivement sur les rails et les ferries. La France avait fermé ses frontières avec le Royaume-Uni depuis dimanche, après la découverte d'un variant très contagieux du Covid dans le sud-est de l'Angleterre. En France, les chiffres des nouvelles contaminations sont toujours très hauts. Plus de 21 000 cas recensés ces dernières 24 heures. Il faut dire que l'on teste beaucoup. Mais le taux de positivité, lui, est en baisse autour de 3,8%. Toujours est-il qu'on est donc bien loin de l'objectif des 5 000 cas qui nous auraient permis de mieux respirer pour ces fêtes de fin d'année. Mais Noël a tout de même fait l'objet d'une trêve, pas de couvre-feu hier soir. Et pour les résidents des EHPAD, la possibilité de sortir. Les familles, en effet, ont pu accueillir leurs parents ou leurs grands-parents à table à Saint-Just, Saint-Rambert, près de Saint-Étienne, dans la Loire. Gabriel, par exemple, 92 ans, a ainsi pu réveillonner avec ses proches et Rémi Brancato a assisté aux retrouvailles.
Dans les couloirs de l'EHPAD Mélet-Mandard, Sonia Desbordes, la directrice, se dirige vers l'ascenseur.
Madame Savinel ne devrait pas tarder à arriver.
Et Madame Savinel,
c'est ma maman. C'était...
Après des semaines sans visite, puis au compte-gouttes, l'EHPAD a vécu 11 décès du Covid. Evelyne Vérard est impatiente.
Parce que nous avons été séparés beaucoup trop longtemps.
Salut ma petite maman, j'étais toute belle.
Il y a beaucoup d'émotions. Hein.
Très émue, oui, de retrouver mes enfants, toute ma famille. Je vous remercie de me permettre de sortir et de profiter un peu de mes petits.
Profitez-en bien.
On y va ma cocotte,
oui.
Gabi, 92 ans, n'est pas sortie depuis 3 mois. Elle passe 2 jours en famille pour Noël, même si à son retour, il faudra s'isoler une semaine, rappelle Sonia Desbordes.
C'est compliqué de se dire que la personne va être isolée, mais en même temps, c'est la seule solution qu'on a dans une collectivité.
Mais malgré la contrainte, une fois installée près du sapin, sur le canapé de sa fille, Gabi ne regrette pas.
Je n'ai pas hésité. Un instant. Le plaisir de revoir mes enfants, c'est oui quand même.
C'est depuis le mois de juillet qu'elle n'est pas venue à la maison, alors que tu avais l'habitude de venir très très souvent.
Je manque mes enfants, ça a été terrible.
Sa petite fille Chloé confirme.
On n'avait pas pensé qu'on pouvait faire Noël sans elle.
Et pour éviter un trop grand rassemblement, Gabi ira dans 3 maisons pour voir ses 3 enfants, 9 petits et 7 arrière-petits-enfants.
Rémi Brancato. À l'étranger, les campagnes de vaccination ont commencé en Amérique latine, au Mexique, au Chili, au Costa avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. L'Argentine, pour sa part, commencera la semaine prochaine avec le vaccin russe Sputnik V.
Eh bien, il est déjà 7h08, Bénédicte. C'était l'un des grands engagements écologiques du président Macron.
L'arrêt du projet de la Montagne d'Or, grand projet d'exploitation minier en Guyane, en pleine forêt amazonienne, à la lisière de 2 réserves biologiques. Le gouvernement avait suspendu les concessions minières. Eh bien, la justice lui ordonne de revenir en arrière et relance du même coup le projet pour la plus grande colère des défenseurs de l'environnement. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. La France marque son soutien à la Centrafrique qui s'apprête à voter dimanche pour son président dans un contexte de guerre civile avec des attaques de groupes rebelles armés. Ces groupes rebelles qui viennent de décréter un cessez-le-feu de 3 jours juste avant le scrutin. Le président sortant Touadéra, candidat à un nouveau mandat, a reçu ces derniers jours des renforts militaires du Rwanda et de la Russie. Et avant-hier, la France, l'ancienne puissance coloniale, a également marqué son soutien en effectuant un survol du pays à basse altitude par des avions de chasse. Claude Guibal.
Dans son communiqué, l'Élysée s'est montré clair. Le survol de la Centrafrique par les avions de chasse français a été effectué à la demande des autorités centrafricaines, une façon pour Paris de marquer sa condamnation des tentatives de déstabilisation du pays. Mais alors que la Centrafrique fait historiquement partie de la zone d'influence française, Faustin Archange Touadéra s'est avant tout assuré le soutien d'autres États. Le Rwanda, souvent présenté comme le parrain de la paix régionale dont il est proche et dont les troupes constituent l'essentiel des casques bleus mobilisés en Centrafrique. Mais il s'est surtout appuyé sur la Russie, avec laquelle la Centrafrique a passé des accords, notamment en termes d'exploitation minière, et qui vient d'envoyer un renfort de 300 instructeurs militaires, en d'autres termes, des mercenaires de la force Wagner. Le rapprochement, opéré depuis 2018 entre Bangui et Moscou, irrite au plus haut point Paris. La France s'est certes partiellement désengagée de Centrafrique en mettant fin à l'opération Sangaris en 2016, difficile à concilier avec ses engagements alors au Proche-Orient et au Sahel. Depuis, la France se contente essentiellement de participer à la reconstruction des institutions centrafricaines. Mais la poussée des violences change la donne, car elle fait de la Centrafrique un enjeu par procuration, un défi pour la France, pour qui ce petit pays est un symbole historique et stratégique très fort de son influence en Afrique centrale, une influence qu'elle ne veut pas perdre au profit de la Russie.
Claude Guibal. La météo de ce vendredi de Noël, quelques flocons ce matin sur l'Est, notamment le territoire de Belfort et puis sur les Alpes, des éclaircies sur l'Ouest, de la pluie au Nord, un beau soleil sur la Méditerranée, avant un week-end de grisaille et de pluie sur la moitié Nord, un franc soleil sur la moitié Sud, les températures autour de 0 à 7 degrés du Nord au Sud ce matin. Elles iront jusqu'à 5 degrés à Lille et Strasbourg, 7 à Brest et Anglet, 4 à Lyon et 8 à Marseille. Eh bien, il est 7h12 sur France Culture, Guillaume.
Merci beaucoup, la parole. Bénédicte Robin. Mais oui, moi je pensais que vous aviez terminé avec la météo. Vous savez qu'à 7h25, Bénédicte, comme tous les vendredis, un portrait, le comme personne aujourd'hui, le portrait d'une soignante. Et puis dans quelques secondes, la question du jour, je sais que vous vous posiez la question, que peut nous apprendre la sexualité des animaux? Eh bien Emmanuel Pouy-Débat va vous renseigner sur cette question.